France Culture.
Que ce soit à l'ouverture des grandes foires à Bâle, Miami, Londres ou Paris, ou à la faveur d'une vente record dans une maison d'enchères, les médias ne manquent jamais de renvoyer une image plutôt caricaturale du marché de l'art. Une image en fait fort éloignée de la réalité des relations qu'entretiennent les artistes au marché. Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Et c'est le très grand mérite du livre de Charlotte Guichard et Sophie Kras, Vendre son art, que de mettre l'artiste au centre de cette histoire de l'art qui permet de comprendre les agencements du marché de l'art. Charlotte Guichard est l'invitée cette semaine de La Suite dans les Idées.
France Culture, La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmont.
Elle sera rejointe en deuxième partie d'émission par un curateur, Hugo Vitrani, curateur au Palais de Tokyo et qui connaît bien la manière dont les relations se tissent entre les artistes contemporains et différents types d'acteurs économiques, mais pas seulement, qui gravitent dans ces mondes de l'art contemporain. Et puis enfin, la rubrique actualité de La Suite dans les Idées cette semaine sera consacrée aux attaques menées contre la science par une certaine réaction, une certaine droite américaine, trumpiste, mais qui, on le verra, se contente pas au territoire américain, loin s'en faut. Et c'est à propos d'une de ces initiatives récentes d'attaque contre la science en France que le mathématicien David Chavalarias viendra nous parler dans cette rubrique. Bonjour Charlotte Guichard.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, vous êtes professeure à l'École normale supérieure et vous co-publiez donc avec votre collègue Sophie Kras, qui elle est maîtresse de conférences à Paris 1, Vendre son art de la Renaissance à nos jours. Alors, il y a eu beaucoup de choses décrites sur le marché de l'art, mais au fond, ce livre, qui est un livre d'historienne de l'art, est un livre aussi nourri plus largement par les sciences sociales, et en particulier, j'ai eu le plaisir en vous lisant d'y retrouver la place centrale accordée par exemple aux travaux de Michel Callon. Michel Callon qui était venu parler de ce livre très important sur le marché ici, qui vous permet d'avoir du marché une représentation assez différente des modèles des économistes qui sont assez simplistes et qui permettent pas vraiment de comprendre les relations sociales complexes, non seulement aujourd'hui, mais en fait depuis que l'art a pris son autonomie en quelque sorte. Charlotte Guichard.
Oui, tout à fait. C'est vrai que cette référence à la sociologie pragmatique était une référence partagée entre Sophie et moi, et c'était un petit peu le point de départ d'ailleurs du livre. C'est qu'on avait, on a toujours cette idée d'un marché de l'art qui serait surplombant, qui s'imposerait aux acteurs et aux actrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes artistes dans notre livre. Et nous, en repartant des travaux de Michel Callon notamment, on a voulu plutôt parler d'agencement marchand et mettre en lumière en fait les multiples manières avec laquelle et dans l'histoire, les artistes ont pu façonner le marché, ont pu aussi s'appuyer sur le marché et ainsi défendre leur art.
Ça remet notamment en cause une vision chronologique dans laquelle, au fond, l'artiste produirait son œuvre. Alors pour ça, il achèterait des matériaux, par exemple, et puis il le produirait dans son atelier, seul ou pas. Et puis ensuite, il ferait la démarche d'aller mettre sur le marché cette œuvre. En fait, les choses n'ont jamais correspondu à cette façon de faire.
Oui, tout à fait. Alors, l'objet du livre, c'est vraiment ce qu'on a appelé le premier marché. Donc, c'est le marché de l'artiste. Donc, en fait, avant d'aller vers le marché de la revente, qui est en général celui qui intéresse les économistes, parce qu'il y a de la donnée, ou les historiens.
On peut faire une histoire des prix.
Voilà, on veut faire une histoire des prix, exactement, à travers les grandes maisons. Donc, voilà, ça, c'est tout un secteur qui est intéressant en soi. Mais nous, on a voulu redonner leur voix aux artistes. Et donc, en fait, le premier marché, il est déjà dans l'atelier, en fait. Parce que l'atelier, c'est le lieu de la transaction, déjà, entre les artistes et leurs acheteurs, leurs commanditaires. Et dans l'histoire, ces acheteurs prennent des figures tout à fait, des formes tout à fait différentes. Ça va être le commanditaire, l'acheteur, l'amateur, le galeriste, le marchand.
Alors, il y a un parti pris aussi dans ce livre. On va revenir sur la manière dont il est construit, mais il y a un parti pris qui consiste à ne pas écrire une histoire strictement chronologique de l'art, même si cette chronologie, on la retrouve, qu'il y a des dynamiques, qu'il y a des processus qui vous intéressent. Ça ne veut pas dire qu'il y a un sens à cette histoire, qu'elle ne va pas toujours dans la même direction, mais en fait, vous efforcez de noter des échos, des récurrences entre l'époque de la Renaissance et puis l'époque très contemporaine, en passant par les changements très importants importants qui sont survenus évidemment au 19e siècle aussi, Charlotte Guichard.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. On n'a pas voulu faire une histoire chronologique du marché de l'art. Ce sur quoi on a voulu insister, c'est ces savoirs des artistes qui se transmettent ou pas dans l'histoire. Et notamment les savoirs tacites, parce que jamais vraiment théorisé, de la négociation du prix. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et un exemple, ben voilà, puisqu'aujourd'hui on a une exposition sur elle, Artemisia Gentileschi, voilà, qui est une femme, voilà, une peintre du XVIIe siècle, dont on sait aujourd'hui, grâce à l'historiographie féministe, que c'était une femme entrepreneuse qui savait aussi négocier ses prix, qui les fondait sur, voilà, des critères objectifs, voilà, le nombre de figures, etc. Voilà, ça c'est un type de savoir qui était très partagé, en fait, à l'époque moderne et en gros jusqu'au 19e siècle, lorsque les marchands vont en gros s'approprier ces savoirs sur le prix, d'accord ? Donc là, l'artiste perd un petit peu ses savoirs tacites qui concernaient la fabrication du prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que les savoirs d'Artemisia s'effacent en quelque sorte parce que de nouveaux modes de fabrication du prix apparaissent avec la cote, mais la figure d'Artemisia persiste, notamment dans les années 1970, la coopérative féministe mutualiste aux États-Unis qui prend le nom d'Artemisia, qui va défendre les femmes artistes et qui va aussi revendiquer des savoirs des artistes, eh bien montre que là, il y a des savoirs qui n'ont pas tout à fait disparu et qui sont toujours là. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière.
Alors ça, c'est le prix. Ça fait l'objet du premier chapitre du livre qui est construit autour de grandes questions. Et à chaque fois, qui s'ouvre par une œuvre que vous décrivez qui vous semble à certains égards emblématique en fait de la question qui suit. Donc pour celle du prix, c'est Frida Kahlo qui ouvre le bal en quelque sorte, avec une manière pour elle de fixer le prix qui vous semble intéressante à ce moment-là.
Oui, on est parti de l'œuvre de Frida Kahlo, Minnana i Io, parce que voilà, on a une œuvre qui est étonnante, qui est dérangeante, hein, lorsqu'on la voit, elle est assez saisissante. On la voit, elle, en bébé, avec une figure d'adulte, et elle est dans les bras de sa nourrice, hein, avec cette figure noire très prononcée, et donc et le sein très apparent. Et donc, en fait, il y a une dimension très intime, presque votive de l'œuvre, mémorielle, en fait. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est que cette œuvre, elle avait un prix. Elle avait un prix qui était fixé sans embâche par Frida Kahlo, c'est $300. Et donc, on interroge le régime aussi de commensurabilité de la valeur esthétique et de la valeur économique de l'art. Et donc, on part de là pour essayer de comprendre, voilà, comment est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on peut fixer un prix à une œuvre lorsqu'on est un artiste sans l'insulter. C'est la formule de Mallarmé.
Ce chapitre sur le prix, il s'ouvre aussi par ce moment dans lequel, au fond, c'est davantage le prix, le coût du temps de travail de l'artiste qui est facturé que l'œuvre elle-même. Et là, on a un changement qui est très important dans l'histoire de l'art, parce qu'au fond, il y a encore des pratiques artistiques aujourd'hui qui reposent sur le fait de savoir combien de temps, dans le spectacle vivant, par exemple, ça peut être très souvent le cas aujourd'hui. Au fond, cette tension entre coût horaire du travail de l'artiste et prix d'une œuvre, de façon plus abstraite, c'est une tension qui traverse tous ces univers artistiques.
Oui, c'est vraiment un point très important et très intéressant. En fait, ce marché de l'artiste, il est traversé par des tensions, par des contraintes parfois contradictoires. Et ça perdure. Il n'y a pas une évolution vers une plus grande liberté de l'artiste, ou au contraire vers une figure de l'artiste de plus en plus entrepreneur. La question de l'indexation du prix de l'œuvre au travail, elle est passionnante, parce qu'elle est toujours présente. Il y a une contrainte, c'est celle du coût de production, en fait. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une rupture quand même très forte qui va se faire, enfin, une série de ruptures qui vont permettre de décorréler le prix de l'œuvre et le coût de production. Et ça va apparaître, en gros, avec la figure de Rembrandt et puis celle des impressionnistes. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, Rembrandt, c'est un peu une des premières figures qui va dire, voilà, moi, j'ai une œuvre qui a apparemment peinte rapidement, avec un style rugueux, hyper personnel, idiosyncrasique, qui s'oppose aux peintres de son temps, les peintres hollandais à la peinture fine, comme Vermeer, qui passait beaucoup de temps à peindre.
Et laborieuse, on pourrait dire.
Laborieuse, voilà, exactement. Et donc, contre ce caractère laborieux de l'art, Rembrandt, puis surtout les impressionnistes, avec le fameux procès de Whistler, hein, contre Ruskin, qui revendique le prix de son art en le détachant du travail et du temps passé à l'œuvre. Et là, c'est le début d'une nouvelle manière de fixer le prix de l'œuvre d'art.
Il y a ce détachement, ce décorrèlement, mais il y a aussi ce que vous appelez l'effacement humaniste du prix.
Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. C'est dans la manière dont on écrit l'histoire de l'art. Et nous, on était vraiment à distance de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les historiens de l'art, la question du marché n'est pas une question important. C'est-à-dire que on va s'intéresser au marché de la revente, comme je le disais, mais parler de la manière dont les artistes vendent leur art, c'est pas une question noble. C'est une question triviale. Et nous, on est parti de cet aspect trivial parce que on pense que c'est constitutif aussi des pratiques artistiques. Et donc, l'effacement humaniste, eh bien, c'est l'idée que ce caractère trivial du prix de l'art, il a apparu très tôt, en fait, dès la période de la Renaissance, des Vasari, où on va essayer d'effacer la manière dont les artistes négociaient aussi financièrement, économiquement leur art. L'exemple, c'est Nicolas Poussin, dont on dit dans une de ses vies que voilà, il mettait le prix au revers de la toile. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est effacé en fait de l'espace esthétique.
Charles Guichard, on reste sur la question du prix pour un dernier temps. Moi, j'ai appris de façon très claire, au fond, je l'avais jamais réalisé comme ça, qu'il y a des règles qui ont cours encore aujourd'hui dans les galeries, qui permettent de fixer le prix des artistes et qui rejettent l'idée que une galerie ou un artiste pourrait fixer le prix de son œuvre en fonction d'une valeur esthétique. En fait, il y a des paramètres qui sont des paramètres les plus objectifs possibles. Par exemple, on va vendre au même prix des toiles qui ont le même format, font partie de la même série, même s'il y en a clairement une ou deux qui apparaissent comme des œuvres plus importantes ou qui sont reçues comme telles, en fait, au moment même où elles sont présentées dans des expositions.
Tout à fait. Alors là, je pense que vous parlez de la cote, de l'apparition de la cote, qui est une nouvelle manière de fixer le prix de l'art et qui apparaît donc au 19e siècle. Et c'est justement le moment où les artistes vont en gros être moins les acteurs de la fixation du prix, ce sont désormais les marchands et les galeristes qui vont fixer le prix de l'art contemporain. Et c'est à travers l'établissement de la cote sur le premier marché. Et la cote, en effet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le taux conventionnel qu'un marchand va appliquer à l'œuvre d'un artiste en fonction de sa réputation. Et donc ça, il va l'établir par rapport aux artistes de son temps. Et avec ce taux, on va multiplier, il y a une formule.
C'est-à-dire que ce taux, on va le garder, mais on va l'appliquer à toutes les œuvres de manière égale. C'est ça qui est...
En fonction du médium et des dimensions de l'œuvre. Donc en fait, l'idée, c'est qu'une cote ne peut pas baisser. Donc on va fixer la cote d'un artiste en début de carrière, ensuite on va l'appliquer, et c'est vraiment, ça c'est le travail du marchand, c'est aussi pour ça, et c'est pour cette raison que les artistes vont perdre ces savoirs du prix.
Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas la fixer trop haute au départ, par exemple.
C'est le savoir du marchand.
Donc voilà, ça c'est l'aspect prix. Alors comme on sait dans ces relations économiques, ça fait l'objet du deuxième chapitre, il y a aussi les coûts. Les coûts, c'est quelque chose de très important au début des périodes qui vous intéressent, qui vous concernent. En tous les cas, ce sont des choses qu'on va retrouver dans la prise en compte du prix, par exemple, c'est-à-dire la fixation du prix. On va prendre en compte les coûts de production d'une œuvre, de réalisation d'une œuvre, c'est-à-dire les matières premières, la peinture. C'est des choses qui vont continuer d'exister très tardivement, encore aujourd'hui, j'imagine, avec des productions d'œuvres qui sont très très coûteuses, mais qui se transforment là encore avec une forme d'effacement de ces coûts. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les coûts ne sont pas réels, mais au fond, on les masque à certains égards.
C'est-à-dire que oui, tout à fait. C'est-à-dire que à partir du moment où l'artiste va perdre un petit peu la capacité de fixer le prix, il va essayer de gagner, enfin, c'est un petit peu notre hypothèse, de gagner une marge sur le coût de production. Et donc les coûts de production, ils sont en quelque sorte effacés au sein de l'atelier. On ne sait plus aujourd'hui combien vraiment coûte une œuvre d'art. Alors que voilà, Botticelli, lorsqu'il il peint un retable, il établit exactement le coût de production. À un moment, il y a eu des artistes dans les années 70, comme
Marxiste, qui ont dit
voilà, on va fixer le prix à partir du coût de production. Voilà, donc ça, c'est des positions théorique intéressante, mais en réalité aujourd'hui, c'est vrai que le coût de production, il est dans la boîte noire de l'atelier, il est souvent délégué, ça c'est souvent le cas pour les œuvres qui sont coûteuses, les sculptures, les installations, etc. Et donc là, c'est vrai qu'il est très difficile de savoir, de connaître les coûts de production parce qu'ils sont délégués bien souvent aussi à des entreprises qui vont fabriquer l'œuvre.
Ce chapitre 2, il s'ouvre par... Quelle œuvre, déjà, je retrouve dans le...
L'œuvre de Botticelli, justement, la Madone Bardi de Botticelli, de 1485, où on a justement gardé le contrat, en fait, qui est établi entre l'artiste et le commanditaire. Et c'est un contrat qui est assez connu parce qu'il avait été travaillé par un historien de l'art important, Michael Baxandall, qu'on a repris parce que, justement, Adrian Piper, on peut penser que les marxistes... Et c'est là où il y a une transmission des savoirs entre les artistes. C'est-à-dire que, voilà, certains artistes savent comment on calculait le prix à la Renaissance, etc. Et ils vont s'en servir dans leur argumentation, dans leur position économique et théorique.
Alors, c'est l'occasion de dire aussi que la façon dont vous pratiquez l'histoire de l'art, elle est très matérielle. Ça consiste à aller trouver des sources qui sont pas simplement justement ces séries longues de données, de prix de vente dans les salles de vente, mais c'est vous plonger dans les écrits d'artistes, dans les correspondances. Ça, c'était très très important parce que c'est là que vous avez trouvé des informations sur la réalité de ces agencements marchands que les artistes nouaient avec tout un tas d'acteurs sociaux différents.
Oui, merci de poser cette question parce que c'est vrai qu'on est parti en fait des correspondances. C'est ces correspondances d'artistes qui nous ont donné envie en partie d'écrire ce livre parce qu'on a des textes incroyables d'artistes. On cite notamment Dürer ou Gentileschi où on voit les savoirs matériels, sensibles qui sont déployés sur l'économie et sur l'art. Et la correspondance, c'est une source incroyable parce que c'est le moment où l'artiste doit défendre son art, parler de son art comme un artiste et pas comme un marchand. Et donc, on a des lettres incroyables de Dürer lorsqu'il écrit à son commanditaire. Voilà comment est-ce qu'il doit s'approcher, pas trop s'approcher de son retable, le soin qu'il a passé aux figures qui le composent. Et Gentileschi, c'est pareil, lorsqu'elle défend le prix de ses peintures et le prix de ses modèles féminins. Une femme coûte plus cher qu'un homme dans l'Italie du XVIIe siècle. Et donc, elle sait qu'elle sait peindre les femmes. Et donc, voilà, elle met en avant à la fois son art et son talent, et on a eu envie en fait de donner à lire ces sources-là parce qu'elles nous permettent d'enrichir l'interprétation des œuvres aujourd'hui.
Alors ça, c'est un peu les coulisses. Ça ne veut pas dire que vous vous détournez complètement de certaines œuvres qui sont plus réflexives que les autres et qui vont donner à voir cette relation marchande. Il y en a dans l'histoire de l'art, mais vous leur accordez de la place parce que ce sont des œuvres très intéressantes pour réfléchir et faire l'histoire de l'art. Mais pour autant, sans vous contenter de cette façon un peu radical, je dirais, de questionner le marché de l'art directement par les œuvres.
Oui, en effet, il y a des œuvres qui sont des œuvres critiques, en réalité. Ces œuvres réflexives sur le marché, elles sont très souvent radicales, critiques, et elles existent. On pense à Yves Klein, le bleu d'Yves Klein, etc. Il y en a beaucoup comme
mais
ça.
Mais même des œuvres de la Renaissance, même... en fait.
Oui,
déjà,
oui.
Il y a des représentations...
Il y a les représentations du marché, en fait, du premier capitalisme, en fait. Premier capitalisme commercial, dans la Florence de la Renaissance, à Anvers, etc. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est plutôt voilà, les ajustements, les agencements, les tactiques, lorsque c'était possible, mais ça n'allait pas toujours, il y a des échecs, des artistes, voilà, pour s'inscrire dans ce marché et défendre vraiment leur art.
Une autre idée reçue, peut-être, que vous battez en brèche avec cette histoire de l'art, serait l'idée qu'au fond, avec les changements technologiques, on assiste à des ruptures nettes. Si on prend la question de la reproductibilité, par exemple, on sait, depuis Benjamin au moins, qu'avec l'invention de la photographie, on basculerait dans un autre régime. En fait, vous faites une histoire qui permet d'accorder de la place à la question du multiple bien avant l'invention de la photographie. Et au fond, cette question du multiple, elle n'a pas attendu l'invention de la photographie pour se poser pour les artistes et pour les marchands.
Elle existe dès le départ. C'est pour ça qu'on a un chapitre qui s'appelle Économie du multiple contre l'imagerie, enfin l'image un peu du white cube, de l'unique, etc. On a voulu montrer que les artistes, même le médium pictural, la peinture, elle se prête à la reproduction, à la répétition. C'est pour ça que quand vous allez dans un musée en Europe, vous allez voir des Titiens qui sont quasi identiques. Pour prendre un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que la répétition, elle apparaît dès la Renaissance. On a l'exemple de Titien, voilà, qui va peindre ses Danaé. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans un marché de commanditaires qui vont tous vouloir avoir une Danaé de Titien. Simplement, ils vont vouloir avoir leur Danaé. Donc, vous avez des Danaé avec, à chaque fois, des petits détails qui changent. Un chien qui est dans l'espace pictural, une servante, voilà. Donc, en fait, on a des œuvres qui sont uniques, mais dans des séries, dans des multiples. Et donc, on a voulu mettre en valeur cette économie du multiple qui se prolonge aujourd'hui et que l'on trouve même dans l'espace médiatique ou numérique.
C'est intéressant parce que dans ce chapitre, vous vous arrêtez sur la photographie particulièrement et sur la manière dont des photographes ont pu, d'une certaine façon, commercialiser leurs œuvres sur deux marchés, soit de manière concomitante, soit avec un laps de temps. Vous parler de l'exemple de Cartier-Bresson, c'est-à-dire des gens qui à la fois travaillaient pour la presse ou Diane Arbus, pour prendre l'exemple qui ouvre le chapitre et qui est quelqu'un qui est plutôt rangé clairement du côté de l'art contemporain aujourd'hui, mais qui a travaillé beaucoup pour les magazines américains. Donc ce sont des gens qui ont été rémunérés pour un travail de presse et qui par ailleurs ont mis leurs œuvres ou certains ont mis leurs œuvres sur le marché par la suite. On peut même prendre des exemples encore plus contrastants puisque par exemple il y a eu il y a encore dans certains journaux des photographes qui sont salariés, des journaux qui sont salariés au même titre que les rédacteurs, en fait, et qui par ailleurs peuvent être des photographes qui, avec ces mêmes clichés, font des expositions, les vendent sur le marché. Donc ils sont bien présents sur deux marchés, ils ont des relations de travail et des modes de financement de leur vie artistique très très différents l'un de l'autre.
C'est ça, les artistes ont des compétences en fait économiques qui sont réelles et ils savent jouer en fait du marché. Et ce que voilà, l'exemple de Cartier-Bresson est très éloquent parce que voilà, il a à la fois il travaille à la fois pour Magnum, etc. Et en même temps, il va mettre en place, voyez, la fameuse fine bordure noire autour de ses photos qui va lui donner sa signature aussi artistique, qui va définir la valeur esthétique de son art. Et ces artistes vont aussi s'inscrire dans un marché qui est celui de l'édition limitée, et donc il y a une compétence en fait sur les savoirs de la reproduction. Et donc on essaie de compliquer les choses en fait. On essaie de montrer que voilà, il y a des parcours, et que les œuvres aujourd'hui, on ne peut les comprendre que si on les réinscrit dans ces marchés au pluriel différenciés.
Le chapitre d'après, on n'aura pas le temps de refaire tout le livre parce qu'il est très riche et à la fois en idées, en réflexions, en histoire, mais aussi en exemple, en incarnation à travers des histoires d'artistes passionnantes. Le prochain chapitre, le quatrième, il est consacré à une figure limite au fond qui est celle de l'artiste commerçant, de l'artiste marchand. C'est très compliqué quand même pour les artistes d'aller jusque-là. Il y a même une sorte d'interdit dans le fait de transformer son atelier en boutique, de faire de la vente directe. Aujourd'hui, avec la possibilité de faire du commerce en ligne, j'imagine que ça bouleverse aussi un petit peu d'ailleurs cette situation. Mais c'est très dangereux pour les artistes.
Oui, en fait, il y a une sorte d'interdit et qui remonte justement à la période humaniste. Voilà, on a voulu vraiment on a construit cette idée que l'art et l'économie seraient des domaines de l'expérience sociale qui seraient distincts. Or, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que non, c'est deux espaces de dialogue. Et à travers cette figure de l'artiste commercial, on est allé chercher dès les origines les premières figures. Par exemple, on évoque la figure d'une femme peintre, Angelica Kauffmann, au XVIIIe siècle, qui fait des portraits avec des dimensions standards et qu'elle va vendre comme ça, tout en faisant parallèlement de la peinture d'histoire, de la grande peinture, qui répond à des critères plus nobles. Et ça va jusqu'à aujourd'hui Takashi Murakami ou Kissaring, pour remonter un petit peu dans le temps, mais dans un mélange qui est bien difficile d'expliquer, il y a un mélange de complaisance avec le marché et en même temps une manière très réflexive et très ironique et ludique, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ces pratiques artistiques.
On aurait pu dire Ben Vautier aussi, par exemple.
Ben Vautier, oui, tout à fait. Non, mais ils sont très nombreux qui assument ce lien avec le marché. On prend l'exemple des sacs Vuitton Murakami, où ce qui est très intéressant, c'est que Vuitton va faire appel au début des années 2000 à Takashi Murakami pour rajeunir le logo conservateur un peu ancien de la marque. Il va réussir pleinement en lui insufflant cette esthétique un peu néo-pop, coloré, avec des roses, des bleus, etc. Et aujourd'hui, on a un artiste qui a à la fois un pied dans le luxe, complètement, et dans l'art. Une figure ambivalente, complètement.
Alors, le luxe, ces acteurs, ils peuvent aujourd'hui jouer le rôle que vous venez de décrire, mais aussi un autre rôle, celui de mécène. On a vu surgir des nouvelles façons d'être aujourd'hui des protecteurs au fond des artistes. Évidemment, on sait que à la Renaissance c'était la règle, mais aujourd'hui il y a des milliardaires qui joue un peu ce rôle, d'une certaine façon. Dans quelle mesure c'est la même chose? Dans quelle mesure cette histoire peut s'écrire depuis Laurent de Médicis jusqu'à certaines figures contemporaines?
Alors, je pense que la figure du mécène, oui, elle est complètement transhistorique. Et c'est cet échange de capital symbolique, en fait. C'est-à-dire que l'artiste va donner une valeur symbolique à son mécène. Et le mécène, en l'essence, c'est une valeur à la fois symbolique et économique. Et donc, oui, cette figure, on la retrouve tout au long de l'histoire. Nous, ce qu'on a voulu un petit peu mettre en valeur à travers le vocabulaire de l'attachement, c'est moins l'asymétrie, au sens la différence de statut entre l'artiste et le mécène. Et mettre en valeur, en fait, la manière dont l'artiste avait su aussi négocier parfois une forme de capacité d'action et de liberté dans ce rapport à celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle le ou la mécène. Donc aujourd'hui, il est certain que voilà, les grandes fortunes continuent à travers le langage de l'amitié, de l'attachement, voilà, à mettre en scène cette connaissance des mondes de l'art, ce soutien aux artistes. Et de fait, ça reste important, c'est important. Et donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment les artistes d'aujourd'hui se saisissent ou non de cette possibilité qui leur est offerte. Voilà. Le lieu de la bourse de commerce qu'on étudie dans le livre, qui aujourd'hui est la Fondation Pinault, eh bien c'est passionnant parce que voilà, on a un lieu qui montre comment les désirs spéculatifs dès le début de la fondation de la bourse de commerce au 19e siècle avec cette énorme fresque qui nourrit un désir voilà de capitalisme, de commerce international, empreinte voilà de colonialisme, etc. Il est offert aux artistes comme une ressource. Voilà, on va leur commander une fresque et aujourd'hui, eh bien voilà, c'est aussi un espace offert aux artistes contemporains dont ils vont s'emparer ou pas, voilà, pour définir leur relation à l'économie contemporaine.
Alors on parle du marché, mais quelle place dans cette configuration, dans ces agencements marchands pour les acteurs publics? Parce que ça a été aussi l'une des choses qui est apparue au cours du XXe siècle notamment, c'est la présence des musées publics, d'une politique culturelle, des achats avec des capitaux publics. J'imagine que tout ça est venu perturber ou enrichir, je ne sais pas comment vous le décririez, ces agencements marchands préalables.
Et c'est vrai que le passage d'un artiste par le musée, c'est un facteur de consécration, de reconnaissance, de légitimation qui est extrêmement important. Donc une œuvre ou un artiste qui va être exposé au musée ou dont le musée va acheter une œuvre, eh bien oui, ça vient ancrer la valeur économique de l'œuvre. On donne un exemple de Ron Arad, qui est un artiste voilà dont l'œuvre est stockée, entreposée dans le port franc de Singapour, hein. Voilà, qui est invisible, mais avant d'aller à Singapour, l'œuvre a été exposé au MoMA. Et donc voilà, c'est toute la complexité de ces circuits d'œuvres. Donc oui, le musée est devenu un acteur central dans l'établissement de la valeur économique et symbolique de l'art aujourd'hui.
Et j'imagine que, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, la frontière publique-privée, elle a tendance à se brouiller assez considérablement.
Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop investigué dans le livre, mais oui, les conflits d'intérêts, en dépit de ce qui est parfois affirmé, sont nombreux parce que les experts du marché, les experts du musée, dans l'histoire, ont souvent été les mêmes.
Alors, vous terminez le livre sur les aspects peut-être plus contemporains. On parle beaucoup, je disais tout à l'heure, de façon caricaturale du marché de l'art. L'une des manières de le faire ces dernières années, ça a été de s'intéresser à ce que le numérique, la blockchain, les NFT ont fait au marché de l'art. Et il s'est trouvé beaucoup d'artistes pour s'emparer de ces nouveaux outils, au fond, et s'amuser avec et en faire des ressources créatives.
Oui, alors on a pensé les NFT sont apparus en fait pour le marché de l'art autour de 2020-21. On a pensé que ça allait complètement bousculer le marché de l'art. En réalité, c'est vrai que là il y a eu une bulle spéculative avec certaines œuvres dont les prix ont monté très très haut. Elles semblent s'être tassées. Ce qui est vrai là où ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des artistes qui s'amusent des NFT, des contrats, donc de ces certificats codés sur la blockchain pour essayer de renouveler les relations qui les lient à leurs acheteurs. Avec voilà un artiste comme Jonas Lund qui va jouer sur les smart contracts, qui va essayer de le certificat va empêcher l'acheteur de revendre l'œuvre avant un certain laps de temps. Donc en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les artistes sont complètement conscients des transformations médiatiques, technologiques, économiques dans lesquelles ils vivent, et les NFT montrent que voilà ces innovations technologiques, et eh bien elles sont articulées aussi à des innovations artistiques.
On poursuit ce tour d'horizon de à la fois de l'histoire, mais aussi de la situation contemporaine des agencements marchands qui concernent les artistes, avec le curateur Hugo Vitrani, qui nous rejoint pour dialoguer avec Charlotte Guichard à propos de ce livre, coécrit avec Sophie Crasse, « Vendre son art de la Renaissance à nos jours » et qui paraît aux éditions du Seuil. Mais c'est après un extrait du nouvel album co-signé par Pierce Faccini et Balaké, Sissoko, « One Half of a Dream ».
Thank you. comes your way, will you run to the high ground or battle the fray? Over horizons our future will break, after the fall join me at the wake. What of the weave and what of the match? The thread that we tied, we meant to detach. Tangled our wires, tripping the light, ending the wrongs, too late to be right. Go leave, don't wait up for one half of a dream. Get it this wrong. Let's run while we still can, but please don't object. I'll meet you in this world, see you in the next. Go leave, don't wait up for one half of a dream.
Dans la rubrique actualité, on parlera des attaques anti-sciences du trumpisme aux États-Unis, mais surtout en France avec le mathématicien David Chavalarias. Mais pour l'instant, on continue de parler du marché de l'art, de la Renaissance à nos jours, et surtout de nos jours dans cette deuxième partie, puisque Hugo Vitrani nous rejoint. Bonjour, vous êtes Bonjour. Curateur au Palais de Tokyo. Et vous occupez de beaucoup d'expositions. Actuellement, l'exposition Ramelzi qu'on peut voir jusqu'à au mois de septembre, qui vient de démarrer il y a quelques semaine au Palais de Tokyo. Et vous connaissez bien ces agencements marchands qu'on peine à saisir quand on est simplement un spectateur des expositions qui font partie des coulisses du monde de l'art, qui sont complexes. On a vu avec Charlotte Guichard à l'instant, qui sont aussi très anciens, qui sont hérités. Ça ne veut pas dire que tout est toujours pareil. Et maintenant, ça fait un certain nombre d'années que vous faites ce métier, Hugo Vitrani. Quels sont les tendances, les changements que vous observez, parce qu'on a le sentiment que les choses s'accélèrent parfois, vont vite. C'est-à-dire qu'il y a une double impression, à la fois de grande permanence et en même temps d'inventivité constante.
Effectivement, ce que nous on peut ressentir quand on travaille dans ce milieu-là, finalement très éloigné des grands noms qui sont toujours cités dans les grandes enquêtes sur le marché de l'art, que moi personnellement j'ai jamais rencontré, tout en étant là depuis une dizaine d'années. c'est que effectivement le public devient parfois très privé et le privé est souvent ou parfois très en renfort du public, et ça crée des écosystèmes assez intéressants à observer de l'intérieur, puisque la caricature est facile. Mais quand on est dedans, c'est beaucoup plus marécageux et complexe, et parfois vertueux, ou parfois l'inverse. Donc c'est vraiment une échelle humaine qu'il faut tenter d'observer. C'est ce que ce livre fait, justement, c'est de replacer les artistes, les acteurs, les personnes qui font ce milieu-là, au-delà des grands prix et des grandes histoires, des grandes anecdotes. C'est de comprendre que finalement, effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué de faire une exposition dans un lieu public sans avoir du renfort du privé. Et tout l'enjeu, c'est de le faire de manière vertueuse, sans se faire instrumentaliser, mais en comprenant comment chacun peut être à sa place sans créer quelque chose de nauséabond.
Le grand mérite, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, du livre de Sophie Crass et Charlotte Guichard, c'est de remettre l'artiste au centre. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous inviter, parce que vous faites partie des gens qui aujourd'hui, s'agissant d'une partie, en tout cas de l'art contemporain, avaient directement accès aux artistes, y compris quand ils sont très jeunes. Vous allez dans leurs ateliers, donc ce premier marché dont parle le livre, vous le connaissez bien aujourd'hui. Vous voyez les difficultés que peuvent rencontrer les artistes pour entrer sur ces marchés, pour connaître au fond leur premier agencements marchands. À quoi ça ressemble ? Est-ce qu'on est encore dans ce système de la cote dont on parlait tout à l'heure, avec l'idée pour les jeunes artistes de pas être coté trop haut dès le départ, de se projeter dans une carrière, dans une perspective ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a différents modèles possibles pour un artiste de carrière à suivre, en quelque sorte ?
Donc effectivement, en tant que commissaire d'expo, on a accès à beaucoup de très jeunes artistes, et on se rend compte que beaucoup de petites galeries ou de grandes galeries ou de grands mécènes, de grands collectionneurs vont aussi faire ce travail d'aller
les visites d'atelier,
d'aller chercher. Donc c'est un temps même de travail pour l'artiste, puisqu'il faut mettre un peu en scène l'atelier, faire semblant qu'on est en pleine réalisation d'œuvres, et puis en même temps faire un petit accrochage qui ressemble pas à un accrochage. Donc c'est aussi du temps de travail qui devrait être comptabilisé.
C'est des sortes d'expositions privées presque.
Oui, des petites mises en scène pour donner à toucher un peu le summum de la création et donner un moment privilégié. Et on se rend compte que beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde de l'art vont chercher le plus tôt possible.
À la sortie des écoles avec les...
Même dans l'école. Donc ça, on se rend compte que aujourd'hui, c'est pas rare de voir des artistes qui sont en troisième année des Beaux-Arts, qui sont déjà collectionnés par des grands collectionneurs ou qui ont déjà des promesses d'exposition ou qui participent à des expos de groupe. Donc ça crée un milieu assez compliqué, puisque il y a le rêve de l'artiste qui va regarder certains de ses amis ou d'autres personnes dont il se réfère, donc et qui va essayer de mimer aussi le démarrage de carrière et tenter de faire pareil. Puis il y a les galeries qui vont effectivement fixer des prix. Alors faut pas que ça soit trop haut parce qu'il faut que ça soit crédible, mais faut pas que ça soit trop bas parce qu'il faut gagner de l'argent et puis faut intéresser certains collectionneurs. Donc si c'est trop bas, ça intéresse que certains collectionneurs. Donc c'est assez étrange quand on est au milieu de ça, puisqu'on se rend compte que moi-même j'y comprends pas grand-chose, que la plupart des artistes que je connais n'y comprennent pas non plus grand-chose. Et il y a des faux démarrages, il y a des démarrages aussi un peu factices.
Puis il y a des emballements.
Il y a des emballements qui durent pas très longtemps, parce qu'il y a des phénomènes d'attachement, mais il y a aussi des phénomènes de détachement. Donc il y a parfois des collectionneurs qui vont s'emballer sur quelqu'un, puis d'un coup des institutions qui vont s'emballer sur la même personne. Puis après 3 ans, après avoir fait toutes les expositions possibles, tout le monde se désintéresse parce que la lassitude est là et que le travail n'est pas assez abouti. Donc on se rend compte finalement que c'est effectivement une période assez complexe, avec énormément d'acteurs dans le privé, énormément d'acteurs dans le public et énormément d'artistes aussi, puisqu'on a énormément d'artistes. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui échappent au marché, soit de manière volontaire. Et ça, moi j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui n'ont pas produit pour le marché, qui ont trouvé des méthodes alternatives. Je me souviens d'un exemple, Villeglé, qui conseillait à 2 artistes amis à moi, qui leur disait comment faire pour réussir à avoir ta carrière. Il leur avait dit, commence par trouver un job alimentaire. C'était déjà le premier conseil d'un grand artiste à des jeunes artistes. Donc on a aussi beaucoup de contre-exemples d'artistes qui soit sont exclus de ce marché-là, soit le refusent eux-mêmes. Et puis, comme on le voit dans ce livre aussi, il y a beaucoup de marchés. Charlotte parlait tout à l'heure de la consécration des musées. On voit aussi des grandes bulles spéculatives d'artistes, disons-le, comme un Orlinski, par exemple, qui est complètement exclu de tout musée, toute institution, toute reconnaissance critique, qui est même critiqué par la critique, et qui devient une énorme bulle spéculative en dehors de ces cercles de reconnaissance intellectuelle et sérieuse du milieu de l'art. Donc on voit aussi qu'il y a des petites bulles partout, plein qui explosent, plein qui s'évaporent, et puis d'autres qui deviennent des boules de neige.
Charlotte Guichard, comment vous observez cette situation contemporaine? Vous êtes historienne, mais cette situation contemporaine vous intéresse?
Oui, elle nous intéressait beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, on a eu aussi envie d'écrire ce livre. C'est parce que on avait envie de montrer que c'est compliqué pour les artistes, en fait. Et que, y a des grands noms. Et là, on a des grandes histoires qui peuvent s'écrire. Mais, derrière, il y a les artistes qui travaillent. Et alors, il y a des choix à faire. Et, on a voulu montrer que, voilà, c'est soit ils étaient compliqués. Parfois aussi, dans la carrière d'un artiste, ça change. Et puis, voilà, par exemple, Hugo parlait d'artistes qui ont un travail à côté. Parfois, avant, on avait des artistes qui avaient des rentes, voilà, donc qui pouvaient donc produire et qui n'avaient pas besoin tout de suite d'entrer dans une dynamique transactionnelle, économique, etc. Donc oui, pour nous, c'est en fait, on a aussi eu envie d'écrire ce livre pour les artistes, en fait, pour leur montrer que voilà, il y a des savoirs, que la délégation, la collaboration, les modes multiples de rémunération, eh bien, ça a toujours, enfin voilà, ça change bien sûr, mais voilà. Enfin voilà, c'est un univers qui est complexe, mais dans lequel l'artiste aussi peut trouver sa liberté, en fait, dans ses contraintes.
Moi, j'ai souvent été frappé par les artistes contemporains, par la créativité en matière entrepreneuriale, par exemple. Donc certains l'ont formalisé, je pense à Fabrice Hibert par exemple, mais d'autres avaient une inventivité folle. Quand Christian Boltanski vend en viager la vidéosurveillance de son atelier, par exemple, est-ce que vous diriez, Hugo Vitrani, qu'avec le temps et la réflexivité est plus grande et se voit du coup dans les œuvres, ou au fond, est-ce que ça a toujours été le cas? On en voit des exemples très ancien dans le livre de Charlotte Guichard.
Ce qui est très précieux dans cette enquête, c'est qu'on découvre que finalement les questions qui se posent aujourd'hui sont là depuis le début. Et donc ce livre est à mettre dans les mains de tous les jeunes artistes, puisqu'on se rend compte que toutes les questions qui vont devoir se poser ont déjà été posées, et c'est juste que les prix ont pris beaucoup plus de zéro parfois à cause du monde actuel. Mais effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, aussi conscient de tous ces combats qui ont déjà été menés, puisque c'est aussi des combats politiques menés par des artistes pour exister dans ce milieu-là et pas se faire broyer, des artistes ont su pas tenir les rênes, puisque c'est compliqué de tenir les rênes, mais en tout cas pas se faire complètement avaler, et ont eu des écosystèmes inventifs pour garder leur liberté. Donc on peut penser par exemple à quelqu'un comme JR aujourd'hui, qui a réussi à créer une méthode de travail très indépendante, ou en tout cas voilà, il n'a pas de logo sur son nom, il n'a pas de logo sur ses expositions. Il a réinventé aussi une manière de travailler dans cette économie avec des sommes de production considérables, sans devenir le porte-parole d'une marque ou d'un mécène ou de galerie. On voit que lui s'était beaucoup inspiré notamment de Christo. Donc on voit aussi comme ça des artistes qui arrivent à être dans des sphères assez importantes quand même du marché, et des sphères importantes de production, donc des grands coûts avec des employés, des ateliers, des œuvres dans l'espace public qui doivent correspondre à certaines contraintes difficiles, qui arrivent à se jouer aussi des gens qui se jouent d'eux aussi.
Alors justement, vous citez JR, mais plus largement, vous connaissez bien et vous avez été le témoin de ce qui est arrivé, je dirais, au graffiti ces 20 dernières années, Hugo Vitrani, avec une forme d'appropriation par le marché, de pratiques qui cherchaient à s'en tenir plus ou moins à l'écart. Et de ce point de vue-là, ça pourrait en soi être un laboratoire assez incroyable d'observation de ces agencements marchands, ce domaine-là de l'art contemporain.
Effectivement, c'est un grand cas d'école, puisque on considère souvent que le graffiti, les arts urbains, se seraient embourgeoisés en passant à l'atelier ou en ayant des choses à vendre ou à exposer, ce qui voudrait dire déjà que le monde de l'art, en tout cas ce monde de l'art, est un monde de l'art bourgeois, ce qui est quand même assez étrange. Donc on se rend compte qu'en fait, dès les pionniers de ces mouvements-là, dès les années 70, les pionniers qui font des métros font des tableaux, font de la performance.
Ça, vous l'avez bien montré dans une expo récente du Palais de Tokyo.
Et ça, on le voit avec Ramelzi notamment, donc on voit que c'est des artistes qui ont eu une pratique beaucoup plus complexe que ce qu'on peut prétendre. Et effectivement, le rôle du marché sur ces scènes-là est absolument abominable, puisqu'on voit que le marché a complètement dévoyé la manière d'écrire ce mouvement-là. C'est des artistes qui parlaient du writing, qui se disaient être des écrivains plutôt que des graffeurs. Après, le mot graffiti a été un peu imposé par les médias, puis d'un coup c'est devenu street art, alors qu'eux parlaient de post-graffiti. Mais post-graffiti, c'était trop compliqué, il fallait que ça soit plus pop. Et puis on se rend compte que cette vision du marché, par aussi l'absence des institutions et des critiques qui ont un peu snobé tous ces artistes-là, le marché a complètement réécrit une scène artistique qui aujourd'hui ressemble à pas grand-chose notamment à cause de ça.
Charlotte Guichard, c'est très intéressant parce qu'on voit que même les historiens de l'art, finalement, sont embarqués. L'écriture, elle est simultanée, elle est contemporaine, l'écriture de l'art, mais il faut résister à certaines pratiques qui consistent davantage à écrire la légende qu'à écrire de l'histoire de l'art, en fait.
Oui, c'est ça. C'est l'histoire de l'art, c'est souvent une histoire de légende. Et parfois, il faut repartir de gestes moins aperçus, moins commentés. C'est pour ça que l'économie, c'est intéressant, parce que c'est impur, en fait. Enfin, ça nous met sur la voie de pratiques impures, complexes. Et donc, nous, c'est ça qui nous a intéressés, et de voir comment... aujourd'hui, mais aussi dans l'histoire, ben, les artistes ont toujours essayé de vivre avec leur art, et jamais sans difficulté, en fait.
Hugo Vitrani, cette dimension de l'histoire de l'art, pour terminer, elle est aussi prise en charge par le métier de curateur. Beaucoup des expositions que vous réalisez ont une dimension historique.
Alors effectivement, et pour prendre l'exemple de Ramelzi qu'on expose en ce moment, c'est un artiste qui a été au centre de toutes les expositions alternatives des années 80 à New York, qui ont permis de mythifier notamment Basquiat. On sait que Ramelzi était une des muses de Basquiat. Ramelzi, plus complexe, plus critique du marché, s'est mis en retrait, est parti plutôt dans la scène musicale, et a été effacé d'une histoire de l'art. Donc il n'est pas cité comme il devrait dans tous les grands livres qui ont mythifié ses époques. Il a explosé sur le marché de l'art une fois qu'il est mort, puisque avant... il était pauvre, et on se rend compte effectivement de l'importance que les commissaires ont aussi dans le fait d'aller exposer des artistes qui parfois ne jouent pas ce jeu-là, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans cette scène. Et un autre exemple qu'on a fait récemment, c'était de faire la grande rétrospective d'Asile, qui est pour moi un des plus grands artistes français. Asile, qui a un travail alimentaire à côté, qui est un grand peintre de métro, performeur conceptuel extrêmement abouti et conceptuel et complexe. Et on a fait sa rétrospective secrète, c'est-à-dire qu'on lui a donné l'espace principal du Palais de Tokyo pour faire sa rétrospective dont il ne voulait pas. Ça ne l'intéressait pas, mais il m'a dit, si tu veux, tu joues avec mes archives, avec mon travail. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un étage entier du Palais de Tokyo avec un budget de 2000 euros, avec un montage d'une journée et une exposition qu'on aurait pu ouvrir pour 4 mois, qui tenait totalement la route, avec un artiste qui ne s'intéressait pas du tout à ce qu'on était en train de faire, mais qui voulait juste voir ce qu'on allait faire, et ça l'amusait. Et c'est là que l'institution a un rôle, c'est de pouvoir encore faire ce genre d'acte de piraterie.
Merci Hugo Vitrani, Ramelzi, l'exposition jusqu'au mois de septembre. Merci à vous Charlotte Guichard. Donc vous signez avec Sophie Crasse, Vendre son art de la Renaissance à nos jours dans la collection L'Univers historique aux éditions du Seuil. On trouve toutes ces références sur la page de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
David Chavalarias, bonjour. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS. Vous dirigez un laboratoire qui s'appelle l'ISC PIF, et vous travaillez depuis de longues années maintenant à essayer de comprendre et de modéliser les relations sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et là, vous venez de publier une étude importante qui documente au fond la manière dont la science a fait l'objet d'attaques concertées par certains acteurs politiques sur ces mêmes réseaux sociaux. Non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle internationale, et en particulier aussi dans sa dimension française. Vous étiez d'une certaine façon au cœur aussi de cette attaque que vous documentez, une attaque qui a visé une initiative que vous avez prise au CNRS, dans ce laboratoire, initiative qui visait à sortir en fait du réseau social X pour aller vers d'autres horizons numériques et documenter cette migration au fond. Que s'est-il passé en ce début d'année 2025 de ce point de vue, David Chavalarias?
Donc effectivement, l'Institut des systèmes complexes de Paris, donc l'ISCPIF, a une équipe que je dirige qui s'intéresse à tout ce qui est dynamique sociale sur les réseaux sociaux, information, désinformation. Et on sait que les prises de parole et les manipulations d'informations et d'opinions sur des réseaux sociaux comme par exemple Twitter ou Facebook ont des rôles importants, notamment sur les élections. Donc on a cette étude-là, une veille qui analyse donc les échanges sur ce type de réseau depuis maintenant quasiment 10 ans. Ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux évoluent. Les réseaux sociaux tels que Facebook et X se referment sur eux-mêmes. Maintenant, par exemple, nous, en tant que chercheurs, on ne peut plus accéder aux données. Donc, toutes les études qu'on a faites jusqu'à 2023, à peu près, on ne peut plus les faire. On ne peut plus non plus donner l'alerte, par exemple, quand il y a des manipulations d'opinion de grande ampleur. Et il y a des nouveaux réseaux sociaux émergents qui ont la propriété de donner plus de liberté aux utilisateurs. En gros, c'est le passage équivalent au niveau des opérateurs téléphoniques, à une époque où on ne pouvait pas changer de téléphone sans perdre son numéro, etc.
Et maintenant, La portabilité.
Maintenant, ces nouveaux réseaux sociaux vous permettent de changer d'opérateur tout en gardant votre capital social, etc. Bon, ça, c'est la situation. Donc, dans cette situation-là, on a eu, comme vous le savez, la victoire de Donald Trump, avec l'intégration dans son administration d'Elon Musk, qui était propriétaire depuis 2 ans du réseau X.
Et qui avait fait procéder à des changements d'algorithme assez importants sur ce réseau.
Exactement. Donc Elon Musk, quand il a racheté Twitter à l'époque, a lancé un certain nombre de modifications dans le réseau social, dont on a pu montrer par nos recherches que ça l'a rendu plus toxique, plus manipulable et en gros nuisible pour la société. Donc ça, c'est tout simplement des résultats de recherche. Et même dès sa premier achat, il y avait eu un début de migration d'utilisateurs qui avaient voulu partir et explorer des nouveaux réseaux sociaux.
Dont Mastodon en particulier.
Mastodon, qui est l'un de ces réseaux sociaux qui a des bonnes propriétés en donnant plus de liberté aux utilisateurs. Quand Donald Trump a gagné de manière assez surprenante pour certains, on a anticipé le fait qu'il y aurait une nouvelle migration, puisque en plus X allait changer de statut, son propriétaire allait devenir membre de l'administration américaine. Et j'ai lancé donc à l'Institut du système complexe un dispositif qui permettrait d'observer cette migration. Et comme nous n'avons plus accès aux données de X, la manière de faire ça, c'était de construire une plateforme de ce qu'on appelle de portabilité des données, c'est-à-dire qui permet à des utilisateurs de X, s'ils le souhaitent, de venir avec leur archive et avec cette archive de retrouver leurs contacts qui eux-mêmes vont explorer des nouveaux réseaux sociaux de manière automatique. Et donc de retisser les liens sur des réseaux sociaux comme Blue Sky ou Mastodon. Donc on a une infrastructure technique donc qui implémente ce qu'on appelle le droit à la portabilité des données, qui est un droit inscrit dans le droit européen, c'est le Digital Services Act, et que X et Facebook et d'autres réseaux comme ça refusent en fait d'implémenter. Donc on a un point de vue technique, une plateforme technique qui permet après, d'un point de vue recherche, d'étudier cette migration et à horizon plusieurs mois de comprendre la différence vraiment fondamentale entre des espaces centralisés et fermés comme X et des espaces plus ouverts comme Mastodon. Donc dans ce contexte-là, on a lancé ça donc quelques jours après la victoire de Donald Trump. Quand ça s'est su, il y a d'autres mouvements citoyens qui avaient envie, des aspirations à explorer d'autres réseaux qui ont décidé d'utiliser cette plateforme. Et il y a eu une synergie entre un projet de recherche et des citoyens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, par exemple au jour d'aujourd'hui, est utilisée par 35 000 personnes dans plein de pays différents. Donc ce n'est pas juste dédié à une certaine population.
Des citoyens ou des organisations qui étaient soucieuses au fond de pluralisme, de possibilité de garantir le pluralisme.
Tout à fait.
Et de lutte contre la désinformation.
Tout à fait. On a une rencontre entre un projet de recherche qui met un dispositif à disposition de tous et des citoyens qui s'en emparent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que vous touchez à X ou que il y a des perspectives que X s'affaiblisse, il y a des réactions très très violentes. Juste pour donner un exemple qui n'a rien à voir avec moi, j'ai un collègue qui travaille dans les sciences du climat qui a dit qu'il allait quitter X suite à la victoire de Donald Trump. Et quelques jours après, quand je l'appelais, il était au commissariat pour dépôt de plainte pour menace de mort parce qu'on l'avait menacé juste parce qu'il a dit qu'il allait quitter X. Et donc, ce que l'on a vu, c'est que autour de cette initiative de recherche et aussi autour du collectif, de tous les citoyens qui se mobilisaient sur la question d'explorer de nouveaux réseaux, de défendre des places publiques numériques, etc. Donc, en réaction à ça, s'est produit une attaque, qu'on peut vraiment qualifier d'attaque, qui était multicanaux, pour essayer de nuire d'une part au projet de recherche, de manière plus globale à cette opération-là. Et quand on regarde la structure de cette attaque...
Alors vous la décrivez, c'est une attaque qui a lieu sur ces réseaux, mais qui aussi a lieu dans l'univers médiatique plus large.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, d'une certaine façon, elle a démarré sur cette antenne de France Culture.
C'est ça. Et donc, si on regarde la structure de cette attaque, en fait, c'est exactement le type d'attaque contre la science qui a permis aux conservateurs américains de détruire les infrastructures de veille de lutte contre la désinformation. Il faut savoir que quelques mois avant l'élection de Donald Trump, les conservateurs américains ont réussi à faire fermer trois centres majeurs de lutte contre la désinformation, Stanford, Harvard et un centre fédéral. Et donc ça fait plusieurs années, puisque leur stratégie électorale, c'est de désinformer. Donc si vous mettez en évidence à la fois la désinformation et ces stratégies-là, c'est nuisible. Et donc la stratégie est la suivante, c'est-à-dire vous faites des campagnes de dénigrement et de harcèlement vis-à-vis des scientifiques sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous essayez d'amplifier ces campagnes via des médias qui ont pignon sur rue. Ensuite, vous arrangez pour que des élus posent des questions au gouvernement ou dans différentes institutions pour essayer d'obtenir des informations au nom de prétendus scandales mis en évidence par des médias. Et ensuite, avec les informations récoltées, vous allez au juridique et vous essayez de ruiner les centres. Donc ça a très très bien marché aux États-Unis. Et ce qui s'est passé en France, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a eu donc une première série, une campagne vraiment d'attaque contre nos personnes et le projet dès le départ, qui était porté par une chambre d'écho qu'on a documentée, qui est une chambre d'écho pro-russe, qui est la quoi transmission en fait de la propagande du Kremlin. Ça a fait mousser donc cette désinformation. Et à partir de là, on a eu toute une série de reprises des médias du groupe Bolloré, puis des députés du groupe RN, Union des droites, qui ont fait des questions à l'Assemblée, et enfin donc une attaque d'un think tank conservateur, nous accusant de détournement de fonds publics, etc., etc.
Le groupe Bolloré, mais aussi le projet Périclès de Monsieur Sterrin.
Tout à fait. Alors quand on prend un peu de recul, on se rend compte que beaucoup des acteurs sont liés à ce qu'on appelle la nébuleuse Périclès, ou le projet Périclès, qui est un projet qui a été mis en évidence par une enquête de l'Humanité, qui a montré que donc Pierre-Édouard Sterrin, qui est un milliardaire exilé fiscal en Belgique, qui est fondateur de Smartbox, a décidé de mettre plusieurs dizaines de millions sur la table pour faire avancer son agenda idéologique, et le fait par plein de moyens différents, en construisant des internats, en développant des think tanks juridiques, en faisant des écoles de formation des politiques. Et dans les structures qui nous ont attaqués, les députés qui nous ont attaqués à l'Assemblée nationale sont liés à ce projet Périclès. Les personnes qui sont intervenues, notamment par exemple dans le Figaro, sont liées à ce projet Périclès. Et les personnes ensuite qui ont porté plainte contre nous, ce cercle droit et liberté, est lié à ce projet Périclès. Donc est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Je ne sais pas, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, on voit que vous avez un projet conservateur qui a annoncé la couleur, hein, parce que leur but, c'est de faire changer la peur de camp, notamment avec un objectif de 20 contentieux par an, ce qui est assez dingue d'afficher ça comme ça. Donc vous avez un projet conservateur qui va irriguer, en gros, la société vers des actions anti-science, exactement comme cela s'est passé aux États-Unis.
Et donc c'est la science qui est vraiment prise pour cible, et les institutions scientifiques en particulier.
Ah, tout à fait, c'est-à-dire que la plainte,
le CNRS, dont vous êtes
contre le CNRS pour détournement de fonds publics, etc., etc., sur les réseaux sociaux, c'est parti évidemment donc des réseaux sociaux d'un certain nombre de désinformations sur le fait que soi-disant on détournerait de l'argent, ce qui est faux. C'est un projet de recherche, une plateforme de portabilité, c'est quelque chose qui est inscrit dans le droit européen. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des procédures Bayon pour essayer de ralentir la science, et notamment la science de la désinformation.
Merci beaucoup David Chavalarias. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup d'être venu, parce que je pense que nous sommes dans une période où les institutions médiatiques doivent serrer les coudes avec les institutions scientifiques et judiciaires, par exemple, pour faire en sorte que l'espace public démocratique et pluraliste continue d'exister. On trouve la référence vers votre rapport sur la page de l'émission, où on trouve également celle du livre de Sophie Crasse et Charlotte Guichard dont nous parlions aujourd'hui, l'exposition dont Hugo Vitrani est le commissaire. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata à la technique, Ludovic Auger à la réalisation, Jean-Christophe Francis.